Et nous voici donc revenus sur les ondes de Radio Galère 88.4, sur internet à radiogalère.org et sur le DAB pour une nouvelle émission hebdomadaire sur l'actualité internationale. Je salue notre technicienne intérimaire mais pointue, Clélie, qui est venue pour remplacer Roselyne. Merci Clélie d'être des nôtres. On est toujours très contents de te voir et on sait que tu es très très habile de tes doigts sur la nouvelle table de mixage.
Merci Bernard, ça fait plaisir d'être ici.
Voilà, et je salue Habib qui est là avec nous.
Salut.
Et qui a eu une semaine très chargée, donc on va lui donner la parole, puisque Habib, donc, vous le savez, on le rappelle, est président de l'Association franco-syrienne d'amitié et de solidarité, je crois que c'est le titre exact, a été nécessairement impliqué dans la préparation d'une manifestation, un rassemblement plutôt, devant la préfecture des Bouches-du-Rhône, pour qu'il soit émis une protestation venant du cœur contre le laisser-faire du massacre, de la tentative génocidaire d'une partie des populations de la Syrie par ce qu'on appelle le gouvernement intérimaire de la Syrie, qui ne sont autres que des terroristes, même pas blanchis. C'est ça qu'il faut dire. Bon, voilà. Donc, raconte-nous un peu la genèse de cette manifestation.
Oui, la préparation a été un peu très difficile, parce que déjà, pour faire les démarches à la préfecture de la police, et que, bon, heureusement, il y a des policiers qui ont été très bien, qui m'ont aidé à effectuer
les démarches.
Je les remercie d'ailleurs à l'antenne de Radio Galère, Comaguerre. Et puis, c'est vrai que ça a été très très pénible parce que l'autorisation, nous l'avons eue
la veille.
Et que, bon, comme dans l'association, j'ai pas mal des amis, j'ai dû téléphoner toute la journée de vendredi nominativement. Parce que l'autorisation est arrivée que le vendredi matin vers 10h ou 11h. Bon, c'est vrai que les gens, ils étaient mal préparés, mais n'empêche, nous avons eu quand même un peu plus de 100 personnes, 150, environ. Et puis de 13h à 14h, nous avons eu un entretien avec FR3. Mm-hmm. Donc Stéphane Turki et sa femme ont pris la parole parce qu'ils ont énormément une famille de plus de 100 personnes du côté des Massiaf.
Qui est encore en Syrie donc.
Qui sont bien sûr en Syrie et qu'ils ont reçu la pression comme tous les... Malheureusement, moi j'aime pas parler des minorités parce que je me sens syrien en entier et que j'aimerais qu'on respecte tous les Syriens en Syrie, les minorités. C'est vrai que la Syrie, il y a énormément de gens, des Druzes, des Ismaïlites, des Kurdes, des Alaouites. Et puis on s'est rendu compte que c'est vrai que la minorité alaouite a été très très touchée, pratiquement, Et il y a eu des massacres, il y a eu des éventrations, il y a eu même, voyez-vous, il y a eu aussi sur tout le long de la côte syrienne, parce que c'est là que résident les Alaouites. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire, c'est l'Empire ottoman qui les a acculés dans ces montagnes. Et les djihadistes actuellement en Syrie, les extrémistes, sur toutes les maisons, les portes d'entrée, ont mis une espèce d'étoile. Si vous voulez, c'est comparable à ce qui s'est passé en France par les nazis.
Voilà, c'est l'étoile jaune des juifs appliquée aux Alaouites.
Exactement. Ouais, bon, c'est vrai que les Alaouites ont été abandonnés par tout le monde. Heureusement que la minorité chrétienne a été bien protégée par l'extérieur. Et les Druzes aussi, qui sont bien défendus. Ça fait qu'ils étaient moins touchés que les Alaouites.
Que les Alaouites. Voilà.
En plus, les Kurdes de Kassad, qui est au nord de la Syrie, évidemment, ils étaient sous l'autorité des Américains.
Exactement.
Voilà. Bon, maintenant, pour moi, la Syrie, elle est retournée 50 ans en arrière. 50 ans, je peux vous le confirmer, vraiment, tout a été détruit. Voilà. Mais j'aimerais bien que Bernard prenne la parole, allez-y.
Merci. Non, mais je comprends ton émotion, je la partage, parce qu'on a affaire donc à un nouveau, dans cette même région, un nouveau génocide. Donc l'extermination systématique d'une population pour ce qu'elle est, non pas pour ce qu'elle fait. Donc dans la mesure où on était juif, on était assassiné en tant que juif. Là on est alaouite, on est assassiné en tant qu'alaouite. Le prétexte, c'est que la famille de Bachar al-Assad et d'Hafez al-Assad était de confession alaouite à l'origine. Je crois que tu m'as dit qu'ils n'étaient pas pratiquants, mais non, ça reste de toute façon, parce que dans les 6 millions de juifs qui ont été liquidés par les nazis, il y en avait qui ne pratiquaient pas la religion juive. Il suffisait d'être juif, d'avoir l'étoile jaune et on mourait. Voilà. Donc on est exactement dans le même type de relation. Et puis ce que je voulais souligner, qui est très très important, c'est que le groupe qui est à la tête du gouvernement de Damas. Alors je dis bien le gouvernement de Damas, car la situation actuelle sur le territoire syrien tel qu'il est défini sur les cartes fait que ce gouvernement ne gouverne qu'une petite partie du territoire. Une autre partie au nord-ouest est gouvernée et dirigée et occupée par l'armée turque. Une autre partie au sud-est est occupée par l'armée israélienne. Et du côté de l'est, il y a encore des troupes américaines. Voilà. Donc c'est ça l'état réel de la Syrie. Et donc le monsieur qui se prétend président, d'ailleurs par intérim, il a quand même la prudence de ne pas en dire plus, il ne gouverne qu'une fraction du territoire, et il ne fait même pas respecter ses ordres par ses hommes. C'est-à-dire que quand il lâche les gens qui, depuis des années, sont couvés par la Turquie, sont formés par la Turquie, sont financés avec des salaires qui sont bien plus élevés. C'est plus rentable d'être tueur en Syrie que d'être dans l'armée syrienne comme soldat. C'est ça la réalité. Mais ce n'est pas quelques pourcents d'écart, c'est 10 fois plus tous les mois, avec des dollars qui arrivent de Riyad, de Jeddah, de Dubaï, etc. C'est ça que ça veut dire. C'est à ça que la Syrie est affrontée. Et je voulais signaler qu'il y a eu un ambassadeur américain qui s'appelle Ford, je ne me souviens plus de son prénom, qui a pris sur lui d'écrire, il dit « j'ai été ambassadeur dans ce pays ». Ce qui a été fait à ce pays depuis 10 ans, donc depuis 2011, ne pouvait pas se terminer autrement. Est-ce que vous savez tout ce qu'on leur a fait? Et à la limite, il parlait au nom des États-Unis, mais ce n'était pas possible qu'ils s'en sortent avec les sanctions, avec les interdits, l'embargo, etc. Ce n'était pas possible qu'ils y arrivent. Et ils ont tenu 10 ans dans ce système-là, et puis ça s'est écroulé. Ça s'est écroulé parce qu'il n'y avait plus de moyens, il n'y avait plus à manger tous les jours, il n'y avait pas d'électricité tous les jours, il n'y avait pas d'eau tous les jours. C'était la misère généralisée pour 20 ou 25 millions de personnes. Bon. C'est ça qu'il faut rappeler. Et je me félicite qu'il y ait quand même un diplomate des États-Unis honnête qui dise « j'ai été en poste dans ce pays, voilà ce qu'on leur a fait ». Vous avez le résultat. Un pays remis à l'état sauvage avec une bande de tueurs à sa tête. D'une partie, bande de tueurs qui ne fonctionne.
En plus de ça, je pense qu'il y a pas mal qui se sont des étrangers.
Alors, très très important. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, pourquoi on va mettre sur les maisons des Alaouites une petite étoile, c'est parce que les gens qui vont venir les tuer demain matin ou cette nuit sont Ouïghours, sont Tadjiks, sont Turkmènes, sont Tchétchènes. Ouais. Ils ne parlent même pas l'arabe. Il faut qu'on leur dise, là où il y a une croix, tu tires, c'est tout. Voilà, c'est un massacre organisé avec des combattants importés. Alors, il y a aussi, paraît-il, aussi un certain nombre de musulmans d'Afrique du Nord, quelques Français et tout, mais le gros de ces tueurs, ce sont des tueurs importés. C'est une armée de massacres importés de l'extérieur. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne bien. Et c'est de ça que nos gouvernements sont complices. Et c'est pour ça que l'association et tous les Syriens qui sont venus à Taïmestre avaient raison de dire « Nous demandons au gouvernement français de cesser de de soutenir ces tueurs. Car c'est le même courant d'opinion, c'est en gros la même organisation. Alors vous savez que ces organisations terroristes, elles changent de nom ou elles, de temps en temps, mais en fait ce sont les mêmes qui sont à l'origine de Charlie Hebdo, du Bataclan, du meurtre de Samuel Paty, et c'est avec eux que des ministres du gouvernement de la France vont serrer la main. Ben c'est pas acceptable.
Et invité par Macron.
Voilà. Et on a su hier que l'Union européenne allait aussi les aider.
Oui,
voilà.
Ouais.
Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos dirigeants pour tenir ce genre de discours et ce genre de position? Il y a, je pense, une perte de repères, une espèce d'affolement, on en parlera un peu plus tard, par rapport à l'évolution des rapports internationaux, et un espèce d'affolement parce que le grand patron ne fait plus ce que les Européens attendent, c'est-à-dire que l'état de vassalisation dans lequel les Européens se sont mis et ont accepté de l'être, c'est l'Union Européenne, sa création par les États-Unis et tout, fait que dès l'instant où le grand patron dit « moi je fais ce que j'ai à faire, vous vous débrouillez tout seul », les petits-enfants errent comme des fous dans la cour de l'école. Ouais. Ils ne savent plus qui est la vérité.
L'orientation.
Ils ne savent plus ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça que ce comportement devient erratique et difficile à comprendre d'un jour sur l'autre, avec alors, des propos excessifs et des propos qui ne tiennent sur rien. C'est-à-dire, on a des gouvernants hors sol, le patron nous a lâchés, on ne sait plus ce qu'on doit faire, on n'a pas d'argent. On va le prendre partout où on peut, mais on n'en a pas beaucoup. Hein. On annonce 800 milliards de crédits pour la guerre. Je vais vous donner quelques chiffres, vous allez voir. Je vais vous donner quelques chiffres pour vous faire comprendre ce que ça veut dire. Parce que je suis allé regarder les cours de bourse de deux sociétés militaires de fabricants d'armes de guerre en France. L'une Thales, l'autre Safran. Ouais. Depuis le début du conflit en Ukraine, le cours de Thales a augmenté de 66%. Le cours de Safran a augmenté de 50%. Dernière donnée, le cours de Dassault, évidemment, 30% en un mois. 30% en un mois. Les dividendes de Dassault vont être augmentés de 40% par rapport à ceux versés en 2023. Et dernier élément de crise qui ne touche pas que la France, l'once d'or, vous savez, les fameux 27 grammes d'or qui permettent de mesurer la valeur des stocks d'or dans les banques centrales, l'once d'or, écoutez bien, est à $3 000 les 27 grammes. C'est-à-dire que l'once d'or a pratiquement doublé depuis un an. On n'avait jamais vu ça. Alors, je rappelle pour la petite histoire, mais pour la longue histoire, que le premier moment où le président des États-Unis a décidé de détacher la valeur du dollar des stocks d'or de l'État-Unis d'Amérique, c'était le président Nixon. À l'époque, l'once d'or, toujours les mêmes 27 grammes, coûtait $35. On est à $3 000.
Dix fois plus.
Voilà. Vous voyez, bon, donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'or, à ce niveau-là? Ça veut dire qu'effectivement, tous les gouvernants sérieux qui ne savent pas ce qui va se passer sur la valeur de leur monnaie, sur l'écroulement de leur économie, savent qu'au dernier moment, en dernière instance, quand on a à régler des achats, qu'on achète du pétrole, du blé et tout, si on arrive en disant « cette monnaie-là, personne n'y a plus confiance, le dollar, on n'a plus confiance, l'euro, on n'a plus confiance, je te mets tant de tonnes d'or sur la table, c'est OK », l'autre dit toujours « OK ». C'est comme ça que ça se passe. Et c'est vers cette situation-là qu'on est en train de s'acheminer. Ce que je vous dis des cours de bourse le démontre. C'est très très rare, et c'est tellement rare qu'on se dit que ça, c'est déjà le début d'une espèce de guerre mondiale, puisque on en est réduit à ces expédients-là. Je reviens à la Syrie pour dire qu'il est prévu de réorganiser le même type de rassemblement. Je crois samedi, pas ce samedi qui vient, mais celui d'après.
Celui d'après, le 28 ou 29, je crois.
Donc, c'est le 29 mars. Sur le même thème, nous protestons contre le gouvernement français qui serre la main de tueurs, qui, il y a quelques mois encore, était sur la liste des tueurs à rechercher par les États-Unis, avec une prime de plusieurs millions de dollars à la clé. Bon. Et ces gens-là, tout d'un coup, parce qu'ils sont mis en costume, on oublie ce qu'ils ont fait. On ne peut. Nous n'oublions pas ce qu'ils ont fait, et nous n'oublions pas ce qu'ils sont en train de faire. Nous n'oublierons pas.
De toute façon, il y a un changement de la Constitution.
Bien sûr.
C'est d'ailleurs, il veut que ça soit une république islamique, alors que...
Tout à fait.
Avant, c'était une république laïque où on respectait tout.
Tout à fait.
Voilà.
Non, tellement laïque que le seul article de la Constitution précédente, c'était un article où il était dit « Le président de la République arabe syrienne doit être un musulman ». C'était la seule indication religieuse de toute une constitution qui, par ailleurs, ressemblait beaucoup à la nôtre, parce qu'elle elle venait un peu des mêmes sources.
Je crois que c'est cela même que celle de la 4e République.
Voilà, elle était inspirée, puisqu'en fait, souvent, on se fait plaisir, mais il faut savoir que les meilleurs juristes syriens, surtout au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, étaient francophones, par les Français, avaient fait leurs études à la Sorbonne, à Sciences Po, etc. Et donc, ça ne venait pas de rien. C'est le bon côté des relations franco-syriennes qui se sont beaucoup dégradées depuis.
Aussi bien au Liban.
Pareillement.
Ces gens-là, actuellement, d'ailleurs, je voulais les signaler, qu'ils attaquent les frontières, ces djihadistes attaquent les frontières libanaises. Ils aident Israël.
Bien sûr, ils aident Israël. Ils bombardent parce que...
Voilà, d'ailleurs, les djihadistes sont rentrés de 5 ou 10 kilomètres à l'intérieur de frontières libanaises.
Voilà. Oui, parce que le cas du Liban mérite qu'on s'y attarde un petit peu, puisqu'on a pu entendre ces derniers jours sur des radios d'État, j'en témoigne puisque j'ai écouté avec une grande surprise, qu'on ressortait l'histoire de la fameuse explosion dans le port de Beyrouth, dont on n'a toujours pas trouvé les causes, on sait, puisqu'en fait, vous savez ou vous ne savez pas, je fais un clin d'œil à Clélie, que le nitrate d'ammonium est un engrais d'excellente qualité utilisé dans le monde entier. Il suffit de mettre un litre de gasoil dessus et de mettre le feu. Ouais. C'est un explosif fabuleux.
Ah oui.
En tant que
chimiste, je l'affirme.
Voilà. Et tous les terroristes du monde le savent. Alors, il se trouve qu'il y avait dans le port de Beyrouth un stock de nitrate d'ammonium qui était là depuis des années, qui un beau jour a sauté. Et donc, il a détruit une bonne partie de Beyrouth.
Le quartier à côté de l'aéroport.
Je peux vous dire que l'émission qui est passée sur France Culture, c'était donc avant-hier soir, disait que c'était le Hezbollah. Évidemment, c'est tellement facile.
C'est tellement facile
d'accuser. Hein, l'accusé est connu à l'avance. Alors qu'en fait, on ne sait toujours pas qui a fait cette affaire, comment ça s'est passé. Voilà. Mais on n'a aucune preuve.
Ça a été très bien.
Ça a été très, très bien. Enfin, on en était au moment, dans les semaines ou les mois qui ont suivi, on était dans le doute. C'est une affaire très compliquée avec du nitrate d'ammonium fabriqué en Russie. Mis sur un bateau en Géorgie à destination du Mozambique, qui paraît-il ne l'attendait pas. C'est une affaire extrêmement tordue. Et tout d'un coup, France Culture, du haut de son autorité, tout ça, c'est l'affaire du Hezbollah. Comme si le Hezbollah maîtrisait la chaîne des logistiques du nitrate d'ammonium au niveau mondial.
Comment il s'appelle, Joulani accuse Hezbollah, là, actuellement. Il a envoyé ses troupes, d'ailleurs, ils sont rentrés, comme je te le dis, des 5-10 kilomètres. Et il accuse le Hezbollah d'avoir aidé l'ancien régime syrien.
Voilà. Et donc, la consigne, c'est dire, on va leur remettre des étoiles sur leur maison. S'il en reste encore, il faut les éliminer. C'est tout à fait clair.
Il ne faut pas oublier aussi les musulmans modérés. Ils étaient aussi visés dans cette histoire. Il n'y a pas que les alaouites, les catholiques, les musulmans modérés qui étaient visés aussi.
Tout opposant politique est voué à disparaître. Voilà, ce qu'il
fallait dire. Il a dissous d'ailleurs toutes les partis politiques.
Ah oui, les partis, tout est interdit, bien entendu. À l'image de l'Ukraine d'ailleurs, dont on va reparler un peu plus loin.
Voilà.
Donc, situation économique mondiale du niveau de guerre, et puis espèce d'égarement des gouvernements européens qui ne savent plus dans quel sens va l'aiguille de la boussole. Avant, c'est sur Washington, c'est clair, Biden dit quelque chose, Blinken dit quelque chose, on répète, ça va. Et là, maintenant qu'ils ont été mis de côté par Trump qui dit « moi, les grandes affaires, je m'en occupe, moi », et vous vous débrouillez. Si vous voulez vous faire la guerre à la Russie, débrouillez-vous. Alors on va dire quelques mots là-dessus. Parce que les 800 milliards annoncés, il faudra d'abord les prendre. Donc il faudra venir les prendre dans la poche de chacun des citoyens des 27 pays de l'Union européenne. Ça, on a bien compris. Hausse du budget de la défense nationale, plus 10%. Baisse sur tous les autres. Hein. Macron, dans son dernier discours, a bien dit il n'y aura pas d'impôt supplémentaire. C'est-à-dire, je prendrai ce que je trouve, y compris peut-être le livret. Enfin, tout ça,
sur
tout
le livret A.
Tout ça est connu.
Oui.
Il s'agit donc de donner des sous pour les usines d'armement. Les usines d'armement. Ces usines d'armement donc, vendront. Après, il est très probable, et c'est ça qui devient épouvantable à dire, il est très probable que l'armée française n'osera pas, ne voudra même pas aller affronter l'armée russe. Mais en attendant, les comptes de Safran, de Thalès, les plus 50% dans le cours de l'action, les cours de Dassault auront pris. Et donc, tous ces messieurs-là se seront remplis les poches parce qu'il y aura une menace de guerre. Alors je souhaite que cette guerre n'ait pas lieu, mais il faut savoir à qui elle profite tout de suite, tous les jours, maintenant. La dernière annonce que j'ai vue qui m'a fait comprendre ça, c'est que le Portugal a annoncé qu'il allait ne plus acheter d'avions américains. Les chasseurs de pointe. Hein.
Ouais, ouais.
Ce qui veut dire, et je pense que chez Dassault, on a dû sauter au plafond de joie.
Ah, oui.
C'est-à-dire que s'il n'y a pas de F-35 qui viennent au Portugal, qu'est-ce qui reste au Portugal s'il dit qu'il veut moderniser son aviation de chasse qu'à acheter des Dassault ? Il n'y a que ça sur le marché européen, c'est tout. Hein. Et donc, effectivement, le cours va encore monter, il a déjà beaucoup monté, il va encore monter avec des effets comme ça. Donc on a, et c'est ça qui est très très grave, mais qu'il faut... Nous comprenions ce mécanisme, qui est un mécanisme très, très écrasant. C'est-à-dire, on nous parle de guerre, de ceci, de cela, de danger. En fait, non. On a un mécanisme qui est monté au profit des fabricants d'armement et qui, probablement, ne débouchera sur rien. Ne débouchera sur rien. Alors, tant mieux, parce qu'il y aura moins de morts. Mais ceux qui sont déjà riches seront encore plus enrichis. Jusqu'au moment où peut-être il y aurait, hélas, une étincelle. Et là, effectivement, alors ça ne les attristerait pas plus que ça. Parce que si jamais les fusées de Safran, si jamais les rafales tombent dans un combat, dans une guerre, il faudra les remplacer. Donc de toute façon, tous ces gens-là jouent gagnant sur notre peau, sur notre sang. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Alors, je suis un peu triste qu'il n'y ait pas dans l'opposition parlementaire au Palais Bourbon des voix qui expliquent clairement les choses.
Ce que je ne comprends pas, Bernard,
oui.
C'est qu'on a eu deux guerres mondiales.
En
Europe.
Ah oui, mais l'Europe a fait un gros travail idéologique, c'est-à-dire on nous a fait croire depuis qu'elle a créé l'Union européenne, depuis le traité de Lisbonne, qu'il n'y aurait plus jamais la guerre en Europe. C'est ça qu'on nous a fait croire. Et même quand elle a eu lieu en Yougoslavie, qui jusqu'à nouvel ordre est en Europe, on a dit non, c'est pas chez nous, on a noyé le poisson, on n'en a pas trop parlé. Hein. Mais en fait, c'est tout à fait possible, on était à l'écart, mais on n'était pas à l'écart de tout. C'est-à-dire que pendant que notre armée ne faisait pas la guerre en Europe pour défendre, c'est ça son objectif, défendre le territoire, elle faisait la guerre ailleurs. Alors, elle ne la faisait pas très très bien, puisqu'elle a été mise à la porte du Sahel, par tous les pays du Sahel. Hein, mais elle l'a fait en Indochine, elle l'a fait à Madagascar. Tout ça, c'était ça, l'armée. Nous avons affaire, et c'est dit par des observateurs militaires qui ne sont pas anti-français ni anti-militaires, mais qui disent, mais cette armée française, ça a été dit par un certain nombre d'experts russes, mais des experts américains, c'est une armée coloniale. Bon, donc sur le terrain colonial, où effectivement l'adversaire est faible, il est au niveau d'une guérilla. On n'arrive pas à grand-chose. Mais enfin, on fait croire qu'on a de la puissance, on tue un certain nombre de gens. Et puis, un beau matin, François Hollande se réveille, il dit « Ah, mais sapristi, j'ai mon armée là-bas, mais on n'y arrive pas avec les djihadistes. » Ah ben tiens, comment ça se fait ? Eh ben, même sur cette tâche-là, qui était la seule pour laquelle elle était à peu près équipée, c'est pas le même équipement quand on met des gens dans le Sahel pour courir après des terroristes qu'au cas où il y aurait une armée qui serait à la frontière de la France et de l'Italie et qui serait là avec des chars d'assaut et des drones. C'est pas la même chose, c'est pas la même armée. Et cette armée-là, pour défendre le pays, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Alors on aura beau rajouter des crédits pour Sylvain, ces crédits ne sont pas adaptés. Bon, on aura hélas l'occasion d'y revenir. J'ai fait une allusion un petit peu à l'Ukraine et à la Russie. On va développer un peu là-dessus. On va développer un peu là-dessus pour montrer où on en est de la situation. Parce que ce qui s'est passé...
Là, il y a un coup de téléphone, là, actuellement.
Voilà,
là,
alors,
à cette heure-ci,
alors,
je crois.
Il paraît... Voilà, ils se parlent.
Ouais,
alors,
voilà.
Alors, c'est la Entre deuxième Trump, fois qu'ils se parlent. Donc, il s'agit de Vladimir Poutine et Donald Trump qui se parlent au téléphone. Donc, on sait que la première fois, ils ont parlé assez longuement. On sait que c'est important qu'ils se parlent, oui. et on sait aussi quel est l'État. Hein. On sait aussi pourquoi Trump était assez pressé, c'est mon analyse, d'aller parler avec Poutine. Parce que ce qui s'est passé dans les dernières 48 heures, c'est que l'armée ukrainienne qui avait envahi une partie du territoire de la Fédération de Russie a été mise à la porte. Dans des conditions sur lesquelles on en a déjà parlé, de l'histoire des gazoducs. Bon, mais de toute façon, voilà, l'Ukraine a perdu, ils ont tenté de porter la guerre sur le territoire russe, ils ont perdu, et les pertes considérables. Alors ce que je ne sais pas, c'est que les militaires ukrainiens et tout leur équipement qui était pris dans une nasse avaient jusqu'à hier soir 18h pour se rendre.
Ça y est.
Alors, je ne sais pas. Alors,
c'est matin.
Ça, ils sont sortis.
Ouais, ouais.
Voilà. Donc ils sont sortis.
Ouais. Là, maintenant, voilà. Poutine peut négocier.
Voilà, donc effectivement, il n'y a plus un seul soldat ukrainien, je mets les guillemets, qui s'impose sur le sol de la Russie, puisqu'on sait quand même, et c'est là peut-être dont les présidents vont se parler, donc ça paraît un détail, mais c'est pas rien, l'armée russe a attrapé sur le sol ukrainien 37 officiers généraux et supérieurs des armées de l'OTAN.
Ouais.
Qui était là pour organiser la guerre contre la Russie. Donc là, c'est des prisonniers qui valent cher, je dis en termes diplomatiques. On va en reparler. Donc la situation, c'est que cette opération, qui était une espèce de diversion qui avait commencé donc, au mois d'août 2024, donc, de mettre le pied de l'armée ukrainienne, donc l'OTAN en fait, à l'intérieur du territoire de la Fédération de Russie, cette opération est terminée et l'OTAN a perdu. Et l'OTAN le sait, et Trump le sait mieux que quiconque, puisque de toute façon, cette armée donc ukrainienne ne pouvait pas fonctionner sans l'aide des États-Unis. Alors l'aide, ça veut dire bien entendu des milliards de dollars, bien entendu de l'armement directement, et puis surtout la couverture aérienne du champ de bataille. Et donc le contrôle de toutes les communications. C'est-à-dire, il ne pouvait pas décoller un seul hélicoptère russe sans que les États-Unis ne le sachent dans la seconde. Et l'information allait à l'état-major de l'armée ukrainienne. C'est ça que ça voulait dire. Alors on a dit, oh, les États-Unis sont loin du combat. Pas du tout, le combat n'avait pas lieu sans l'armée américaine. Il n'était pas possible. Il se serait déjà fini depuis longtemps. C'est de ça que Trump veut parler. Alors revenons sur le personnage, parce qu'il est central, et il s'est voulu central, parce que c'est la nature du personnage tel qu'on le voit apparaître sur les écrans. Il est le président de ce qu'il considère encore comme la principale puissance mondiale, et il veut dire son mot et peser de tout son poids sur les événements tels qu'ils se déroulent. Or, il sait, et c'est là que c'est intéressant à dire, il sait que la guerre d'Ukraine est perdue. Il sait que la guerre d'Ukraine est perdue, et il sait qu'il va falloir trouver un arrangement. Alors, pas seulement un cessez-le-feu, on n'est plus du tout, alors soyons sérieux, c'est pas du tout ça le thème. Le thème, c'est de mettre fin à cette guerre dans des conditions qui ne permettent pas qu'elle reprenne dans 3 mois. Soyons bien conscients de la chose. Alors, c'est pas si simple. Vous savez que quand au sortir de la Première Guerre mondiale, on s'est assis à Versailles pour discuter des traités de paix, puisque là, il y a eu des traités, on a mis 2 ans à discuter. Alors il y avait plus de puissance en jeu, mais c'était ça. Et donc il y avait le président Wilson venait de Washington à intervalles réguliers, on discutait, il y avait Churchill, il y avait etc. Bon, c'est ça. Donc un cessez-le-feu, ça n'a pas de sens. Ça n'a de sens que si ça débouche, et c'est ce que dit la position russe, c'est très très simple. Ça n'a de sens que si effectivement ça élimine les causes de la guerre qui vient de s'achever. Autrement, on est reparti pour une autre. Et un cessez-le-feu d'un mois où on permet simplement de réapprovisionner les arsenaux, c'est juste, on s'amuse. On s'amuse avec l'opinion et on s'amuse avec les gens qui vont encore mourir à la sortie de cette période trop courte. Bon. Donc, la situation est là. C'est très important de comprendre que Trump, quand il sait qu'il est plutôt en situation d'infériorité, ce qui est le cas manifestement sur le dossier ukrainien, eh ben, il va discuter. Il va discuter, il ne fait pas l'intéressant, il dit pas, il ne crie pas, il ne pousse pas des jurons. Donc il va discuter parce qu'il sait, là, il y a un obstacle. Et par contre, alors, quand il sait qu'il n'y a pas d'obstacle ou qu'il croit qu'il n'y a pas d'obstacle, là, il est féroce comme aucun président des États-Unis n'a pu l'être. Ils l'ont tous été, c'est-à-dire que quand il s'est agi hier et avant-hier d'aller bombarder les Houthis au Yémen, hein, il n'est pas allé de main morte. Donc on a affaire à un double personnage qui est très très simple. Enfin, je cherchais le nom de l'appareil à mesurer le rapport de force. Il doit y avoir dans sa tête un appareil à mesurer le rapport de force, un dynamomètre pour dire, je suis en position de faiblesse, je suis tranquille, je suis apaisé, je suis en position de force, je tue. Ah, c'est clair, hein. Il a son petit... Ça lui suffit. Trump n'est pas un grand intellectuel. Hein, simplement, il dit là, là, je suis en position d'infériorité. Bon, je vais essayer de composer, de trouver une issue pas trop défavorable. Et là, alors là, je suis le maître du jeu. Alors là, je cogne. Hein. C'est très très simple. C'est un boxeur qui est allé au tapis de l'autre côté.
Ce matin à Gaza, il a donné le feu vert de bombarder.
Exactement.
Il y a eu plus de 300 morts. Hein.
Voilà. Alors, par exemple, en Ukraine, on peut considérer que le boxeur Donald Trump a été au tapis, il a été compté jusqu'à 8, il se dit le coup prochain, je vais à 10, c'est le chaos. Non, stop, stop. Donc je vais essayer de me refaire une santé, on va me donner un coup d'oxygène dans les narines, et ça va repartir. Hein. Par contre, alors quand il s'agit de Yéménites et de Gazaouis et de Palestiniens, là, allez-y. Alors, en Palestine, c'est pas lui, c'est Netanyahou qui a bien compris. Netanyahou, pour qui une signature d'un cessez-le-feu, ça ne vaut rien. C'est-à-dire, je fais ce que je veux, quand je veux. Ouais. J'arrête l'alimentation en électricité, j'arrête l'alimentation en eau, je veux faire mourir de faim les Gazaouis. Depuis le début, je n'ai pas changé de politique. Et à ce moment-là, on voit de côté de Washington, et pour ça, ça passe. C'est-à-dire que Trump, là, ne négocie pas. Il laisse faire, et lui, de son côté, il s'est occupé des Yéménites. Alors, parlons un peu des Yéménites, puisque ça mérite d'être expliqué.
Ah oui.
Les Yéménites avaient dit, et ils ont reproduit leur prise de position, avaient dit, tant que le cessez-le-feu à Gaza dure, nous arrêtons nos interventions avec nos drones et nos missiles sur les flottes qui naviguent en mer Rouge, et principalement les flottes qui amènent du matériel en Israël.
C'était
très très ciblé. Alors c'est vrai que la conséquence est allée au-delà, c'est-à-dire que la plupart des compagnies maritimes, toutes les grandes compagnies maritimes internationales qui utilisent le canal de Suez, sont dit il y a un risque d'incident, qu'on subisse un tir, etc. Et donc la majorité des courants donc entre l'Europe et l'Asie en particulier passent par le sud, par le cap de Bonne-Espérance et font le tour. Passe plus en mer Rouge. Mais le but des outils, des Yéménites, c'était bien de dire, nous empêchons l'approvisionnement, que ce soit en nourriture, en armement, d'Israël, c'est tout. On interdit
comme Israël empêche
pareillement
l'alimentation à Gaza.
La même façon. Bon. Or, dans la mesure où les Yéménites, et ils l'ont dit, se sont aperçus qu'effectivement, Netanyahou avait recommencé les hostilités, ils ont dit, alors là, notre engagement était clair, hein, on était là pour que le cessez-le-feu à Gaza soit maintenu, il ne l'est plus, on reprend notre activité.
Parce que de l'autre côté, les Américains et les Anglais, ils attaquent le Yémen.
Voilà, alors effectivement.
Et oui.
Voilà. Et oui. Alors ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on va reprendre notre activité, puisqu'on était clair sur notre position. Dès l'instant où Netanyahou recommençait à bombarder Gaza, nous on recommençait nos activités militaires. Immédiatement, les Britanniques et surtout l'armée des États-Unis, la marine de guerre et l'aviation, se mettent à bombarder le Yémen. Et là, ils font comme ils savent faire. C'est-à-dire que là, Trump ne dit pas « calmons-nous, essayons de négocier ». Non, non. Au contraire, tuons le maximum de Yéménites. Des femmes et des enfants. Des femmes et des enfants.
Parce qu'on
est toujours dans la même logique exterminatrice, qui est celle qui s'applique à Gaza. Il ne s'agit pas simplement de tuer des Gazaouis. Il s'agit d'empêcher que... Je mets le mot entre guillemets, parce que ce n'est pas le mien, ce n'est pas mon vocabulaire. Il s'agit d'empêcher que la race palestinienne continue d'exister. Ouais, c'est ça le fond du problème. Hein, tuer les mères, tuer les enfants, vous n'aurez plus de descendants. C'est la logique.
Clair,
bon,
c'est
donc
vrai.
Il ne faut plus qu'il y ait d'enfants au Yémen et tout. Bon, mais il y en aura, de toute façon. Là. Mais le génocidaire, il apparaît là, tel qu'il est, nu dans son horreur et dans sa barbarie. Parce que j'utilise le mot, je pense qu'il n'y en a pas d'autre. Je l'utilise d'autant plus volontiers qu'il y a un auteur, un philosophe, qui est pas un philosophe, c'est un penseur qui s'appelle Charles Darwin, qui a bien expliqué que l'espèce humaine, elle se distinguait par la possibilité d'être civilisée, c'est-à-dire que le fort n'écrase pas le faible. L'espèce humaine, ça observe, ça réfléchit et tout. Dès l'instant où le fort dit « il est faible, mais c'est précisément parce qu'il est faible que je le défends », à ce moment-là, on rentre dans l'humanité. À l'inverse, voilà, on n'y est plus. Donc, je reviens au Yémen après ce petit parcours chez Charles Darwin, très rapide, pour dire que ce qui se passe, c'est donc une attaque très déterminée de l'armée américaine, mais c'est une riposte immédiate des Yéménites. Parce qu'en fait, tout n'a pas été détruit, il y a surtout effectivement des morts civiles du côté yéménite. Et donc,
oui,
les,
il y en a. Oui.
Il y a Ils ont donc décidé de riposter, et ils ont riposté. Et ils ont riposté de belle manière, c'est-à-dire qu'ils ont attaqué à plusieurs reprises et pendant des heures...
Ils ont empêché,
Le porte-avions Harry Truman et sa flotte, donc avec des missiles balistiques, avec des drones et tout.
Des drones,
Alors, ils n'ont pas coulé le porte-avions, mais il faut savoir que déjà le porte-avions Harry Truman était allé se cacher pratiquement au sud du Sinaï, très très loin du Yémen, pour éviter les tirs. Ils n'ont rien évité. Et donc, effectivement, là, on a un vrai rapport de force entre le petit qui se défend avec des moyens techniques très avancés, mais des petits moyens en termes d'argent, mais très avancés techniquement, et le gros qui est, en fait, très embêté parce qu'il a, soi-disant, la force de frappe des porte-avions et tout ce qu'il y a, et tous les chasseurs qu'il y a dessus, et qui n'arrive pas à avancer dans ses objectifs. Et donc, là, on doit être au Pentagone en train de réévaluer la situation, c'est-à-dire qu'il pensait éliminer les Houthis, et les Houthis sont toujours là, et les Houthis seront toujours là tant qu'on ne laissera pas...
Il y a eu une manifestation dans tous les pays, grandiose,
mais
incroyable.
Alors, il y a une énorme mobilisation. Sur Gaza, puisqu'on en était à parler de Gaza, alors il faut savoir, le massacre recommence. Bon, donc la signature de Netanyahou, on sait ce que ça vaut, c'est-à-dire rien du tout. Et ce qu'on sait aussi, c'est que l'équipe Trump, là, elle n'est pas inactive, c'est-à-dire elle se préoccupe toujours de les faire partir. Et ça fait partie de la nouvelle attaque. Écœurer, décourager, éliminer autant de Gazaouis que possible pour qu'un beau matin, ils disent « on n'en peut plus, on s'en va ». C'est ça qui est toujours derrière. Alors, c'est plus la Riviera des débuts, mais ils sont quand même, et je vais vous le dire, ils sont en train de chercher l'endroit où pourraient aller les Gazaouis une fois qu'on les aurait chassés de chez eux. Alors, il y a une première tentative qui a été de dire aux voisins, aux Égyptiens, aux Jordaniens...
Et l'Arabie Saoudite aussi.
Et l'Égypte a dit, non, moi, je mettrai tout l'argent qu'il faut pour reconstruire Gaza, mais ils sont chez eux, il n'est pas question que je les accueille. Bon, là, donc cette porte-là, c'est fermé. Alors, je vais vous indiquer les portes qui sont en train de s'ouvrir, parce que ça n'arrête pas. C'est-à-dire que le projet de faire partir les Gazaouis de leur pays, il est maintenu.
Mais Gazaouis, la Cisjordanie...
Et la Cisjordanie, tous les Palestiniens de Palestine. Alors, donc le processus n'arrête pas, on en parle moins, mais il est toujours en vigueur. Alors, les tentatives, les discussions qui ont lieu, donc ça veut dire qu'il y a des diplomates des États-Unis qui vont discuter avec un certain nombre de pays, je le cite. Le premier pays, c'est le Soudan. Le Soudan, je le signale, 80% des enfants ne vont plus à l'école. On est dans un état de famine épouvantable parce que les États-Unis soutiennent une fraction dissidente de l'armée. On sait qu'il y a la guerre civile depuis 2 ans, en gros, maintenant. Bon. Et donc, ils vont voir le président en exercice du Soudan, qui est au pouvoir, et ils vont lui dire, on arrête, écoutez bien comment ça se passe, on arrête de financer tes opposants en leur donnant de l'armement si tu acceptes les Gazaouis au Soudan. Alors, imaginez, on va envoyer des Gazaouis qui sortent de ce qu'ils ont vécu pour les envoyer dans un pays ravagé par la guerre civile où la majorité de la population ne mange pas à sa faim.
Ils sont dehors, dans la rue.
Voilà. Ouais. Et donc, bon, mais il y a des gens que ça ne gêne pas de mener ce genre de négociations. Le deuxième endroit, je les cite parce que j'ai regardé la liste et j'étais absolument ahuri. Le deuxième endroit, c'est la Somalie. Alors la Somalie, alors c'est un pays qui ne tient pas trop debout, puisqu'en fait, il est coupé en... Il y a un vrai gouvernement officiel à Mogadiscio. Il y a une partie qu'on appelle le Puntland, qui fait un peu ce qu'elle veut. Il y a une partie qui a déclaré son indépendance, mais qui n'a pas été reconnue, qui s'appelle le Somaliland. Bon, donc la Somalie, c'est un énorme gâchis. Pauvre Somalien, j'allais dire. Hein. Il faut savoir que les États-Unis, à l'occasion, ont essayé de faire de casser la Somalie. Ils y ont réussi d'une certaine façon. La Somalie est un État désorganisé. Bon, mais si, avec un gros chèque, avec quelques milliards de dollars, une promesse de faire ceci ou cela, de surtout vendre de l'armement, ils arrivaient à dire « oui, on accepte les Palestiniens », ce serait une belle affaire. Hein. Ouais. Mais évidemment, vous allez envoyer des Palestiniens pour vivre dans une situation à peu près aussi grave et pire que celle dans laquelle ils vivent aujourd'hui. Qui partira ?
Il y avait l'une roi au moins qui...
Qui partira ? Alors, j'insiste là-dessus parce que derrière les idées générales...
Je sais pas, il n'y avait pas le Gabon aussi, j'ai entendu parler.
Oui, mais alors, ils ont essayé en Afrique, disons en Afrique subsaharienne, ça a moins bien marché. Ça a moins bien marché, d'autant plus qu'en Afrique subsaharienne, quand même, maintenant, il y a des îlots de résistance à l'impérialisme occidental et à celui des États-Unis ou de la France ou de la Grande-Bretagne.
Entre parenthèses, il y a le Niger qui se retire de la francophonie.
Oui, ça bouge. Donc voilà où on en est dans cette question des Palestiniens, donc qui revient à l'ordre du jour, c'est-à-dire qu'une nouvelle fois, tout va être fait pour essayer de mettre les Palestiniens à la mer, de même façon qu'on essaye de mettre les Alaouites à la mer, etc. Donc le projet de Grand Israël, il est toujours vivant. Trump le soutient, donc on a bien, je reviens là-dessus, on a bien affaire à un personnage qui, quand il voit que le dynamomètre dit « là, ça ne va pas passer, je fais des risettes, je vais causer avec Poutine », et de l'autre côté, la brute qui dit « on est les plus forts, on tue ».
Et je voudrais dire, ajouter que la solidarité arabe n'y est pas.
Non.
Voilà, et c'est la faiblesse. Il a trouvé une faiblesse, là,
ah ben,
bien sûr.
C'est clair. Ben, là, alors, il faut revenir là-dessus, parce que quel était le seul gouvernement arabe qui n'ait pas reconnu l'État d'Israël dès 1947 ? C'est la Syrie, c'est tout. Les autres l'ont tous reconnu. Alors, ils s'en sont accommodés avec, y compris des traités de paix, c'est le cas de la Jordanie et de l'Égypte. Et puis les autres, c'était des arrangements, et ça allait se développer avec ce qu'on a appelé les accords d'Abraham, qui, je pense, sont morts maintenant, mais qui ne sont pas si loin que ça. C'était en cours avant le début de l'opération sur Gaza.
Il ne faut pas oublier aussi l'Algérie.
Oui.
Actuellement, regardez ce qui se passe entre la France et l'Algérie.
Bien sûr, ça fait partie exactement
du problème. Parce que bon, l'Algérie, c'est un truc. Oui.
Et je reviens, alors, pour parler de ces gens-là qui tuent volontiers, je reviens sur un personnage que vous ne connaissez pas et il n'y a rien à perdre, mais qui s'appelle M. Demian Ganul. Qu'est-ce que c'est que ce personnage ? Ce personnage est un nazi ukrainien qui a été liquidé dans la rue il y a 2 jours ou 3 jours.
Ouais.
Bon. Alors, pourquoi il est... Alors, c'est ce monsieur qui était l'organisateur du massacre d'Odessa. Alors je reviens à cette histoire-là, parce qu'il faut savoir qu'après donc, la révolution du Maïdan, donc la fuite du président normalement élu, donc M. Yanukovych qui s'enfuit, qui a failli être assassiné, il s'en va, et donc il y a un gouvernement putschiste, résultat du coup d'État organisé par les États-Unis, qui s'installe à Kiev. Et donc les néo-nazis qui sont dans ce gouvernement, sans avoir tous les postes, mais ils en ont un certain nombre, ils sont dans les services de sécurité, ils sont armés et ils sont menaçants. C'est-à-dire si jamais il y a un officiel, même du nouveau régime arrivé par le coup d'État, qui n'obéit pas aux néo-nazis, ce monsieur disparaît. Et donc effectivement, l'influence des néo-nazis est extrêmement forte, bien qu'on ait voulu la minimiser en Occident. Et donc ce qui se passe, c'est que le 2 mai, donc très très peu, on est un mois et demi après le coup d'État lui-même, il se passe le massacre de la maison des syndicats d'Odessa. Alors Odessa, c'est la grande ville russe sur le bord de la mer Noire. Tout le monde connaît, au moins depuis le cuirassé Potemkin, mais même avant. Et donc ce qui se passe ce jour-là, c'est qu'une équipe de néo-nazis, conduite par M. Demian Ganul, dont je viens de citer le nom, vient, sous couvert d'une participation à un groupe de supporters pour un match de football, régler la question de ceux qui, à Odessa, et comme il y en a au Donbass par ailleurs, refusent le nouveau gouvernement et refusent qu'on leur interdise de parler le russe, qui est leur langue native. Bon. Et donc les gens qui manifestaient contre le nouveau régime issu du coup d'État donc, de Kiev quelques semaines auparavant sont poussés dans la maison des syndicats, à laquelle ensuite ils feront feu. Les néo-nazis montent dans les étages, éventrent une femme enceinte à coups de couteau, jettent d'autres par la fenêtre. Enfin, ils assassinent 40 ou 50 personnes et ils mettent le feu après. On pense qu'il y a eu autour de 200 morts. Bon. L'enquête que devait faire le gouvernement ukrainien de l'époque n'a évidemment pas avancé, on s'en doute, puisqu'il s'agissait d'amis néo-nazis du gouvernement. Mais il se trouve que quand même, et ça l'honore, la Cour européenne des droits de l'homme a statué là-dessus et a effectivement condamné le gouvernement ukrainien en disant qu'il était totalement coupable des affrontements, du non-suivi, c'est-à-dire que les noms de tous les tueurs de la maison des syndicats sont connus, à commencer par celui du chef là. Donc la Cour européenne des droits de l'homme a clairement dit que le gouvernement ukrainien a laissé faire, il est complice, elle l'a condamné. Alors ça n'a pas fait beaucoup d'effets diplomatiques, mais on sait que du point de vue du droit, l'affaire est particulièrement claire. C'est un massacre organisé par un gouvernement issu d'un coup d'État. et dans les pires conditions, j'ai pu, alors ça me touche parce que j'ai pu rencontrer la maman qui avait alors 45 ans d'un jeune étudiant qui avait été jeté par la fenêtre sous ses yeux sur la place d'Odessa où ça s'est passé. J'en garde un souvenir profond et attristé. Et la France ne disait rien. Alors, bon, on avait fait, nous, une émission, mais je pense que c'est peut-être la seule émission qu'il y a eu là-dessus sur les ondes francophones à l'époque. Personne d'autre n'en a parlé. Parce que l'horreur venait, on était tellement contents qu'il y ait eu un coup d'État. J'insiste pas. Donc, M. Demian Ganul a été tué, il y a 48 heures ou 3 jours, dans la rue, par un monsieur qui est arrivé, qui lui a tiré dessus, tout simplement, qui est parti tranquillement après. Alors, je crois qu'on l'a rattrapé depuis, mais il n'est même pas caché. Il a dit, de toute façon, moi, je viens faire la justice. Ce monsieur-là a trop de sang sur les mains. On l'a condamné à rien du tout. Il est condamné. Et c'est intéressant. Ça veut dire que si aujourd'hui, à Odessa, il y a un monsieur qui est apparemment un officier de l'armée ukrainienne, qui a donc quitté son unité pour venir régler cette affaire-là, éminemment politique. Je pense qu'il va passer de mauvais quart d'heure dans les prisons ukrainiennes. Mais ça veut dire que s'il a décidé de faire ça, il n'est pas seul à penser que la page doit se tourner. C'est-à-dire que il est révélateur, à mon sens, je donne mon analyse, qu'il y a dans la population russophone qui vit aujourd'hui en Ukraine une espèce de lassitude et même le fait qu'ils ne supportent plus le fait qu'il n'y a plus aucun droit public, il n'y a plus de droit de manifester, il n'y a plus de droit de constituer des syndicats, il n'y a plus rien du tout. Ce pays étouffe. Alors, qu'ils aiment ou pas M. Zelensky, c'est très secondaire, ce pays étouffe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, dans les conversations entre Donald et Vladimir, qui sont en cours, on va aussi aborder cet aspect-là. On va aussi aborder cet aspect-là. Parce qu'on a d'un côté, voyons les choses, on a d'un côté un monsieur Zelensky, alors dont paraît-il, ça c'est Trump qui l'a dit, dans les sondages, les opinions favorables sont à 4%. Alors c'est peut-être 4, c'est peut-être 6, j'en sais rien, ça n'a pas d'importance. En tout cas, il est manifestement pas très populaire. Non. Et de l'autre côté, on a des provinces qui sont maintenant rattachées à la Russie, par référendum populaire, qui sont bien contentes d'être rattachées à la Russie. Donc, et là, on les a laissées s'exprimer. Donc, à mon avis, tout porte à croire que s'il y avait demain un référendum dans la région d'Odessa, pour dire on rentre ou on ne rentre pas dans la Russie, le résultat serait le même qu'au Donbass et qu'à Mariupol. Bon. Et je pense que c'est une voie, alors j'espère que c'est une voie qui va être prise, parce qu'effectivement, ça couperait court à toutes les élucubrations et à tous les commentaires de travers qu'on va entendre autrement, dire « oui, oui, mais on les a forcés à rentrer en Russie, ils sont venus parce qu'ils avaient une balle sur la tempe, etc. » Non, c'est pas ça. Si on leur dit « exprimez-vous », on laisse 3 mois de calme, on dit à la population d'Odessa, on dit à la population de Dniepropetrovsk, on dit à la population de Kharkov, vous allez vous exprimer, vous voulez aller où et avec qui. Bon. Et en fonction de ce qu'ils diront, les frontières seront tracées. Il s'agit pas, donc, il ne faut pas voir qu'on a des généraux en chambre qui font une ligne. Alors, ça c'est la coloniale, j'allais dire. Regardez le découpage des pays de l'Afrique francophone, quand vous voyez d'énormes angles droit et puis un angle à 45 degrés. Ça c'est de la politique à l'équerre. C'est pas sérieux. On ne peut pas traiter des populations développées, respectables, comme ça. On doit leur dire, ben voilà la situation, vous avez vu ce dont chacun était capable, maintenant vous allez parler. Et on va vous laisser parler et on va accepter ce que vous allez dire. Alors, s'il y en a qui disent « bon, on veut rester dans ce qui restera d'Ukraine », ils le diront. Mais on sera passé par là. Autrement, on bricolera des accords sur des coins de feuilles dans des bureaux séparés. C'est pas comme ça que ça se termine. Une vraie, si on veut que ça se termine bien, il faut que ça se termine comme ça. Voilà, donc je voulais vous parler de M. Demian Ganul. Ne cherchez pas sa photo, je vais le dire, il est épouvantable. C'est, bon, moi, j'ai rien dit. Alors, pour rester là-dedans, qu'est-ce que je voulais vous dire Ah voilà, oui, je reviens sur une petite incise sur la question financière que j'ai abordée tout à l'heure. Alors ça, c'est un commentaire que j'ai trouvé dans un journal qui s'appelle Capital. On ne fait pas mieux pour parler d'argent. Hein. Ouais. Et c'est fait par un spécialiste en placement qui dit « Les investisseurs sont à l'offensive sur le secteur de la défense. En bourse, les entreprises européennes liées à l'armement ou aux industries stratégiques, aviation, aérospatiale, radar, électronique de pointe, sont en plein boom depuis quelques jours. Plus 19% à l'ouverture lundi 3 mars pour Dassault, plus 16% pour Thales ou encore plus 15% pour Rheinmetall qui est un franco-allemand qui fait des chars. Une flambée largement attisée par les annonces en faveur d'un réarmement européen, avec en point d'orgue la présentation ce mardi, 4 mars, d'un plan de 800 milliards. Tout ça, vous le savez. Alors ça arrive donc, on est le 5 mars. Mais en fait, ceux qui ont suscité la guerre, eux, ils ont déjà acheté. Parce que, vous savez, il y a un fameux milliardaire américain qui dit « Moi, je suis riche parce que j'achète quand c'est bas et je vends quand c'est haut ». Donc, petit QI, hein, rien du tout. Bon, enfin, donc les gens qui ont lancé la guerre en Ukraine, qui la soutiennent, etc., eux, ils savent que ça va déboucher là-dessus. Et donc, eux, ils ont acheté au plus bas. Hein. Et maintenant, ils vont vers ce qu'on appelle le petit porteur, pauvre petit porteur qui est le dindon de la farce, disant, bon, allez-y, c'est le moment d'acheter. Mais peut-être c'est le sommet du cours. Donc ça ne montera peut-être plus, mais c'est trop tard. Ce n'est pas pour vous que ça avait été fait. C'est fait pour les gros actionnaires, les gros, hein, les BlackRock, etc. Ça, eux, ils sont là. Bon. Donc bien se rendre compte que même dans le monde capitaliste, je pense que les auditeurs n'ont pas des gros placements en bourse, mais de toute façon, il y a même dans ce petit monde capitaliste des nigauds, les dindons de la farce, et puis il y a ceux qui ont tiré les ficelles. Ceux qui ont lancé la guerre, qui ont fait monter les cours. Hein. Et maintenant, c'est eux qui vont prendre les dividendes. Ça, c'est le côté argent. C'est le côté argent. Et puis, alors, il y a effectivement aussi le top pays, les 10 pays exportateurs d'armes en 2024, puisque les chiffres sont sortis. Alors, les États-Unis sont à 42% des dépenses des ventes militaires mondiales. La Russie est numéro 2. La France est numéro 3. Oui, donc, qu'est-ce que fait M. Macron quand il dit « Il faut y aller, vas-y Ursula, on va les avoir, battons-nous, 800 milliards et tout ». Il fait monter la part de la France dans ce classement, qui est déjà pas mal, hein, parce qu'on est à 7 milliards de dollars de ventes, on est le troisième pays du monde. Et donc, c'est ça, parce que M. Macron, effectivement, il sait bien que l'industrie française, à part cette industrie-là, elle n'est plus vraiment très, très brillante. Et donc, là, ça marche. Alors, ça marche après, je l'ai dit quand même, la Corée du Sud, ça va très bien. Alors, imaginez la Corée du Sud, et regardez, Israël est le 8e du monde. Un pays qui fait 6 millions d'habitants sur 8 milliards et demi, et le 8e exportateur d'armes du monde. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un atelier des États-Unis long de la Méditerranée. C'est tout, il ne faut pas aller chercher.
J'allais te le dire.
Mais oui, ce n'est pas autre chose.
Voilà.
Et ça fera plaisir à Habib, je regarde l'heure tranquillement, vous donner lecture, ce qui paraît intéressant. Je reparle de la Syrie, excusez-moi, c'est un peu décousu tout ça. C'est le communiqué du Parti communiste grec sur l'événement de Syrie. Je le lis parce que je pense qu'il résume bien la situation. Le KKE, donc c'est le nom du Parti communiste grec, condamne les crimes atroces commis en Syrie par le régime djihadiste qui a été imposé par l'intervention des États turcs et israéliens et le soutien des États-Unis et de l'Union européenne. Ces crimes, qui sont dirigés contre le peuple syrien et en particulier contre les minorités ethniques et religieuses, portent également la marque de tous ceux qui ont soutenu cette invasion et se sont réjouis de la chute du gouvernement Assad, y compris le gouvernement grec ainsi que le reste des partis du bloc Union européenne-OTAN, PASOK Syriza. Je m'arrête là-dessus parce que PASOK, Parti socialiste grec, Syriza, la soi-disant extrême gauche grecque.
Ah, Syriza.
Non, alors je m'arrête là-dessus parce que ça veut dire qu'en Grèce comme en France, il y a des gens qui se réclament de l'extrême gauche et qui laissent faire. Voilà. Et donc ça, on a une vraie carence, une vraie faiblesse de la gauche française, le Parti socialiste et une partie de l'extrême gauche.
Le Parti socialiste s'est exprimé ce matin, c'est lamentable.
Donc alors, bon, on se sent orphelin ici à Radio Galère et à Covaguerre, mais effectivement, on a un vrai manque de réflexion de gauche sincère dans la gauche française, au moins celle qui arrive jusqu'au Parlement, qui a des élus. Bon, alors, mon espoir... Il faut toujours avoir de l'espoir. L'espoir fait vivre. Mon espoir, c'est qu'il y ait, en dehors de ce cercle parlementaire, en dehors de ceux qu'on voit tous les jours à la télévision, un certain nombre de gens qui comprennent qu'effectivement tout ça est mené par les vendeurs d'armes, tout ça est mené non pas pour faire une guerre qui ne serait pas gagnable et qui ne servirait à rien, parce qu'on n'a pas besoin, dans l'État où est la France, il n'y a pas besoin d'une guerre en plus. Parce qu'on a déjà suffisamment de soucis comme ça.
Glucksmann, il représente quoi dans le Parti socialiste?
Ah ben, Glucksmann, c'est, on l'a mis à la tête pour les élections.
Mais
pour
les élections. Le secrétaire du Parti socialiste, bon, c'est...
Non, mais on a, en fait, l'opération Glucksmann, bon, c'est assez simple. On a mis à la tête un pro-américain, probablement même un agent de la CIA, à la tête du Parti socialiste.
Un pro-nazi, oui.
Voilà. Comme ça.
Mais je t'assure, c'est un pro-nazi. Moi, je
l'ai
écouté.
Oui, il n'y a pas de... Ben, alors, on sait. Alors, revenons sur Glucksmann. Je ne sais pas. Je regarde comme ça, Clélie, si tu as un portrait de Raphaël Glucksmann en tête. Non. Alors, M. Raphaël Glucksmann, fils de son père, philosophe anticommuniste connu. Bon, on est tous le fils de quelqu'un. Ouais. C'est illustré par le fait qu'il est arrivé en Géorgie, du temps où était à la tête de la Géorgie, à la suite de la disparition, de la chute de l'URSS, un nommé Mikhaïl Saakachvili, qui était donc lui clairement un agent des États-Unis, et M. Glucksmann a été ministre de l'Intérieur d'un gouvernement fasciste en Géorgie.
Donc,
c'est pour ça que je dis, lui, s'il n'est pas entre les mains même un salarié des services américains, il en est au moins très très proche. Bon, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et donc, c'était très bien qu'il arrive à la tête de la liste du Parti Socialiste pour les élections européennes, parce que ça évitait qu'il y ait dans le Parti Socialiste. Alors, il y en a toujours eu, ça fait partie de l'histoire du Parti Socialiste.
Oh, oui.
Il y a toujours un moment, dans les circonstances graves, où il y a une partie du Parti Socialiste qui dit, mais quand même, c'est pas ça le socialisme. Je fais référence parce que c'est un vieux souvenir. À un moment donné, le Parti Socialiste, qui était la SFIO au moment de la guerre d'Algérie, il éclate parce qu'il y a des gens qui disent « Non, ce qu'on fait en Algérie, c'est pas beau à voir. » Et il y a un certain Michel Rocard qui dit « Je sors, je fais le Parti Socialiste unifié. » C'est-à-dire, je ne me reconnais plus dans le Parti Socialiste, puisque dans le Parti Socialiste, il y a le gouverneur Robert Lacoste qui est à Alger et qui, lui, est dans la guerre jusqu'au bout. Et donc, le Parti Socialiste se
désorganise. Et Mitterrand, qui était ministre, qui a envoyé...
ministre de l'Intérieur, et M. Mitterrand, qui n'a signé aucune grâce pour toutes les décapitations que la France a faites sur les militants du FLN. Donc,
voilà,
pas d'illusion là-dessus. Mais, effectivement, ça existe dans cette frange de la social-démocratie. De temps en temps, il y a des gens propres. C'était le cas de Rocard à l'époque. Ils disent, non, c'est pas possible de rester là-dedans. Et on sort. Donc, ça aurait pu arriver, mais avec un Glucksmann à la tête du Parti Socialiste, ça n'arrivera pas. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Est-ce que j'ai oublié
les accords sur l'arme nucléaire entre l'Iran et...
Alors, voilà, dernier moment, ça qui doit se discuter sérieusement en ce moment par téléphone entre les deux présidents, c'est, il est clair que les États-Unis, et Trump en particulier, ont mis en avant la position qui est classique depuis longtemps sur Netanyahu, en disant, en fait, les Houthis, ce n'est rien, si ce n'est qu'ils se battent quand même, et qu'ils se battent bien, mais c'est les Iraniens qui sont derrière.
Ouais.
C'est les Iraniens qui les aident, qui leur ont donné la technique pour fabriquer des missiles, des drones, etc. etc. Donc, en fait, tirer sur le Sanaa, tirer sur le Yémen, c'est pas très intéressant. Maintenant, il faut bombarder Téhéran. Alors, c'est là que je pense que la discussion sera serrée, mais elle sera... je vais aller dire, ils vont certainement se regarder au fond des yeux. Parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a quelques semaines, la Russie a signé avec l'Iran un traité d'alliance stratégique pour mettre au point une défense commune. Ce qui veut dire, c'est pour ça que regardons-nous bien, je regarde Clélie comme si elle était un interlocuteur, regardons-nous bien dans les yeux. Hein. Poutine disant, si vous tirez sur l'Iran, c'est vous tirez sur moi. Réfléchissez bien avant de commencer d'appuyer sur le bouton. C'est sur moi que vous allez tomber. Je suis là. Et j'ai mis tout ce qu'il faut en place pour accueillir vos chasseurs bombardiers et vos missiles.
Voilà.
Réfléchissez 5 minutes. Et l'autre, avec son dynamomètre, va dire « Ah, Ah, c'est encore lui. Bon, alors on va voir. Alors les jours qui viennent nous diront si effectivement on va voir, mais je pense que ça va porter, parce que c'est trop facile. Enfin, ça c'est le rêve de Netanyahou et du président Herzog, etc., et de Valls, c'est de dire, allez, c'est la bonne occasion, on en termine avec l'Iran. Non, non, l'Iran, il faut le savoir, est un espèce de cauchemar pour la direction sioniste, mais c'est depuis le début, pratiquement, c'est un cauchemar. Et donc, ils se disent, s'il y a une occasion qui se présente, on la saisira. Seulement, l'occasion, je pense qu'elle est passée. C'est trop tard. C'est trop tard. Vous ne pouvez pas attaquer la Russie aujourd'hui. Alors, la Russie, elle a de quoi s'occuper pour quelques jours encore sur le terrain ukrainien. Ça, on va voir comment ça se passe. De toute façon, elle sait que militairement, elle est en position forte. Elle a mis au point des outils, des armes que les États-Unis n'ont pas. Je veux parler des armes ultra rapides, à Mach 10, etc. Donc la Russie a une certaine aisance dans sa position stratégique militaire. Et donc je pense que le grand Donald, avec son sens du rapport de force, va dire « Bon, on va réfléchir, je suis content. » Et alors, moi, j'admire l'habileté de Poutine qui dit « Je discute très, très sérieusement avec le président Trump. Il lui passe la main dans le sens du poil, on allait dire vulgairement. » Parce qu'il sait qu'il a bien compris qu'il avait affaire à un personnage qui aimerait bien que « Make America Great Again », mais il semble bien qu'il n'y ait pas. Et à propos de « America Great Again », le nouveau chancelier allemand, donc le premier ministre Merz, a dit exactement la même chose. « On va refaire l'Allemagne Great Again ». Alors, il n'a pas dit en anglais, il l'a dit en allemand. Mais quand j'entends ça dans la bouche d'un chancelier allemand, j'ai comme une espèce de frisson qui me passe quelque part en Alsace-Lorraine. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. C'est pas très rassurant d'entendre un chancelier allemand qui dit ça. Dans un pays qui est en difficulté économique et donc qui cherche une échappatoire dans la guerre et qui, à nouveau, a le rêve, qui ne tient évidemment pas le bout, d'aller prendre des terres, d'aller prendre du blé, d'aller prendre des minerais. Alors, je n'ai pas parlé de minerais et tout, on en parlera longuement la semaine prochaine, parce qu'on nous parle tous de... On prend les minerais, mais il y a aujourd'hui des propriétaires, il y a des sociétés qui sont propriétaires des mines. Alors, ils existent, il y a des oligarques ukrainiens qui sont propriétaires d'aciéries, de mines de fer. On ne va pas leur dire, vous partez. Donc, toutes ces négociations journalistiques sur les richesses minérales font... totalement l'impasse sur la réalité des rapports de force économiques. Et qui sont les propriétaires et comment on va les obliger à vendre ce qui leur appartient. Mais ça, on ne vous le dira pas, parce que c'est ça la réalité du partage des dépouilles. En fin de guerre, on se partage les dépouilles. Ça se passe dans les coulisses.
Ça se passe dans les coulisses,
on ne nous explique pas, mais c'est ça la réalité, la deuxième réalité importante. Voilà, un petit bilan rapide. Merci Clélie. Et on se retrouve, bien entendu, mardi prochain à 14h. Superbe. Merci.